VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel, dans 10 minutes, l'Amérique et vous avec John Lyndon, mais tout d'abord le journal. La Côte d'Ivoire en deuil au lendemain de la sanglante attaque djihadiste contre la station balnéaire de Grand Bassam. Le gouvernement ivoirien a décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les sites vulnérables lors d'un conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui. Les explications de François-Dominique Delafosse, porte-parole du ministre de l'Intérieur, au micro d'Idriss Fall.
Au plan sécuritaire, il y a une déclaration du ministre de l'Intérieur là, qui a été faite tout à l'heure en Conseil des ministres. Au sein de ce Conseil, nous avons eu plusieurs mesures qui ont été prises. D'abord, le président a décrété 3 heures de deuil national. Ce soir, à partir de 20h, le journaliste s'adressera à la nation. Donc, on attend maintenant le message du chef de l'État ce soir. Donc, les mesures sécuritaires sont là. On a bouclé tous les périmètres qui sont déjà atteints, que ce soit les hôtels, les restaurants. Nous avons aussi bouclé tout ce qui est identification. En ce qui concerne aussi l'identité de ceux qui ont eu à commettre les attaques, le procureur de la République se charge de pouvoir décliner leurs identités, mais ça va, tout est revenu au calme.
Et on avait fait état d'assaillants qui seraient en cavale.
Nous n'avons pas ces informations. Ce que nous avons comme information et qui a été rectifié, c'est bien évidemment qu'on a eu au total de ces attaques qui ont occasionné la mort de 7 civils, 33 personnes sont blessées et 3 terroristes au lieu de 2 terroristes, comme il était annoncé. Et 3 membres des forces spéciales aussi sont décédés. Donc en ce qui concerne les assaillants qui ont fui, non, nous n'avons pas ces informations.
François-Dominique Delafosse, porte-parole du ministre ivoirien de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. L'attaque contre Grand Bassam, première opération djihadiste de ce genre en Côte d'Ivoire, a été revendiquée hier par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Réaction à l'étranger, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault et son collègue de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se rendent demain à Abidjan pour exprimer la solidarité de la France. Ici aux États-Unis, le président Barack Obama a mentionné aujourd'hui l'attaque d'hier contre la Côte d'Ivoire lors d'un passage au département d'État américain. Pour le chef de l'exécutif, les États-Unis doivent continuer à renforcer leur partenariat avec les pays qui luttent contre le terrorisme. Washington avait déjà condamné fermement les attaques terroristes de Grand Bassam et dit se tenir prêt à soutenir le gouvernement ivoirien dans son enquête sur cette attaque odieuse dans un communiqué dimanche du porte-parole du département d'État, John Kirby. Cela dit, la vie a repris son cours normal à Abidjan aujourd'hui. Au micro de Jean-Roger Bion, le témoignage de Mme Odile Pohan. Elle est psychopédagogue à Abidjan.
Oui, l'état d'esprit est très bon. Ce matin, nous avons vu des embouteillages partout et nous sommes tous au travail, la plupart. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire en des situations pareilles. C'est le moral qui va montrer qu'on peut surmonter l'événement. C'est dramatique, mais comment on le vit et comment on surmonte cet événement en continuant la vie. Et c'est ce constat qu'on fait aujourd'hui. Un peuple qui a connu une rébellion, qui a connu la guerre, après des élections, 3000 morts, je pense que ce peuple est suffisamment aguerri pour que face à des événements, on puisse encore montrer notre capacité de résilience. C'est ça qui est important, de pouvoir faire face et de continuer la vie en n'oubliant pas ce qui s'est passé, mais en prenant appui pour plus de sécurité peut-être.
Madame Odile Pohan, psychopédagogue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Au Mali, la Ménocal, chef spirituel des Touaregs de l'importante tribu des Ifogas, appelle l'État malien à engager des discussions avec les djihadistes maliens. Selon lui, les Américains ont été obligés de parler discrètement avec les talibans afghans et les Algériens ont discuté avec leurs islamistes. La Ménocal Mohamed Ag Intala demande donc aux autorités de Bamako d'engager des discussions avec les djihadistes maliens. Idriss Fall l'a joint à Kidal pour davantage d'explications.
Il faut qu'on discute pour vraiment garder toujours l'espoir d'avoir la paix dans ces régions, c'est particulièrement le Mali. Il faut qu'on l'approche, on va discuter avec eux. Négocier, ce n'est pas une faiblesse.
On va négocier avec qui?
Avec les djihadistes, ils sont prêts à négocier.
Par exemple, Yad Agali est prêt à négocier?
Non, je ne sais rien de Yad Agali. Je le prends, c'est une seule personne qu'il a à la tête de ce qu'on appelle un sardine aujourd'hui. Pour moi, être un sardine, ce qui n'a pas déstabilisé le pays, sardine a trouvé une formule avec tout le monde.
Et discuter autour de quoi?
D'abord, c'est la question, qu'est-ce qu'ils veulent? Les premières discussions, les premiers mots, qu'est-ce que vous voulez? C'est là-bas qu'ils ont donné cette nouvelle.
Quand ils ont occupé le nord du Mali, ils ont coupé des mains, ils ont égorgé des gens?
Non, moi je suis au nord à l'époque. Je n'ai pas vu, hein, mais à l'époque, je ne sais pas si c'est le même. C'est pas la même chose que maintenant.
Est-ce que vous avez été en contact avec Iyad Agali?
Personne qui est en contact avec Iyad. Même ces éléments, ils ne sont même pas là. Mais je sais que si on a engagé le système, le processus de dialogue, tôt ou tard, on va connaître là où il est. Il ne peut pas passer toute sa vie à se cacher.
Mohamed Ag Intala, l'ami local des Touaregs au Mali.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, RCA, les résultats officiels du premier tour des élections législatives sont maintenant connus. La CCT, la Cour constitutionnelle de transition, vient de les publier. 45 candidats passent dès le premier tour, nous dit notre correspondant à Bangui, Freeman Sipila.
Quatre candidats des circonscriptions de Bangui figurent parmi les 45 sortis vainqueurs au premier tour. L'analyse des 152 requêtes enregistrées par la Cour constitutionnelle de transition a relevé plusieurs irrégularités dans les opérations, notamment des irrégularités sur des bulletins de vote, changement d'identité de certains candidats, l'absence ou l'insuffisance des bulletins de vote dans certains bureaux de vote, la vente illégale des cartes d'électeurs ou la distribution par des personnes non autorisées, l'empêchement de certains électeurs à exprimer leur suffrage. Conséquence, la Cour a invalidé le vote dans 10 circonscriptions de Bangui et de l'intérieur du pays. Zakari Ndouba, président de la Cour constitutionnelle de transition.
Les résultats provisoires qui n'ont pas été redressés ou annulés deviennent définitifs. Article 6 ordonne à l'autorité nationale des élections la reprise des élections dans les circonscriptions où les élections législatives sont annulées.
Le second tour des législatives aura lieu le 27 mars prochain, selon une annonce de la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Crise au Burundi maintenant, l'Union européenne a officiellement suspendu son aide directe au gouvernement du président Pierre Nkurunziza en réponse aux violences qui secouent le pays et pour pousser aussi les autorités burundaises au dialogue avec l'opposition. Des détails avec Nani Talani.
La décision a été prise aujourd'hui par les 28 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne lors de leur réunion mensuelle à Bruxelles. Premier donateur du Burundi avec une aide globale de quelque 430 millions d'euros pour la période 2015-2020, l'Union européenne a suspendu ses appuis directs, y compris les appuis budgétaires, pour obliger les parties burundaises à trouver une issue à la crise. Bruxelles appelle notamment à la reprise du dialogue inter-burundais conduit sous la médiation de la communauté est-africaine. Toutefois, l'Union européenne maintient intégralement son aide humanitaire. Désormais, Bruxelles financera juste des projets visant à assurer l'accès de la population aux services de base.
On passe maintenant à la Turquie. Attentat meurtrier hier à Ankara, la capitale turque. La police a arrêté 4 suspects aujourd'hui dans la ville de Sanlıurfa. L'attentat à la voiture piégée a fait au moins 36 morts. Personne n'a revendiqué l'attaque, mais les autorités turques pointent du doigt les rebelles kurdes. Maëlys Segal.
Les États-Unis ont fermement condamné cette attaque et réaffirmé leur partenariat solide avec la Turquie dans le combat contre le terrorisme, selon le porte-parole du département d'État, John Kirby. L'ambassade des États-Unis en Turquie avait alerté vendredi ses ressortissants sur une possible attaque terroriste visant des bâtiments du gouvernement turc. Cet attentat à la voiture piégée est le deuxième en moins d'un mois à Ankara. La police a arrêté 4 suspects grâce à une information indiquant que le véhicule utilisé avait été acheté dans le sud-est de la ville. Le mode opératoire rappelle celui de l'attentat perpétré le 17 février, revendiqué par un groupe kurde dissident du PKK, les Faucons de la Liberté. Quelques heures après cette attaque, une dizaine de chasseurs-bombardiers ont pilonné les bases des rebelles kurdes dans les montagnes de l'extrême nord irakien. Depuis l'été dernier, de violents combats ont repris entre les forces de sécurité et le PKK dans de nombreuses villes du sud-est, peuplées en majorité de Kurdes.
Conflit en Syrie maintenant, le président russe Vladimir Poutine a ordonné aux forces russes de se retirer du territoire syrien. Le président syrien Bachar Assad se dit d'accord. En attendant, les négociations indirectes entre le régime syrien et l'opposition ont commencé aujourd'hui à Genève ensuite pour tenter de mettre fin à une guerre qui entre dans sa 6e année. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Merci de votre attention. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.